viennent les tumultes. Pour une écologie politique intersectionnelle. Une série sonore en 2 épisodes, produite par La Turbine, écrite, mise en voix et réalisée par Julia Passo et Sofia Pavanini, avec le soutien de la radio associative Jet FM et de la ville de Nantes. Je suis Julia Passo, conceptrice, autrice et danseuse, fondatrice du collectif nantais de recherche-création La Turbine.
Je suis Sofia Pavanini, coordinatrice et journaliste au sein d'une radio associative.
Ensemble, nous avons conçu, écrit, mis en voix et réalisé cette série sonore. Nous avons souhaité aborder les multiples systèmes de domination sur le vivant humain et non humain au prisme des alliances et des luttes intersectionnelles.
Ce sont des sujets vastes et nous n'avons pas la prétention d'être exhaustives. Nous sommes toutefois convaincus qu'il est aujourd'hui nécessaire de ne pas tomber dans une vision figée de l'écologie, de faire entendre une pluralité de voix et de dénoncer les systèmes de domination au sein même du mouvement écologiste.
Nous nous sentons concernés car on vit ces oppressions dans notre chair. En tant que femmes, nous ressentons, nous vivons les conséquences de la domination patriarcale sur nos corps et nos vies. Nous sommes aussi bien conscientes que nous avons des privilèges de classe et de genre qui font que nous pourrions reproduire nous-mêmes des logiques de domination.
Enfin, il nous semble essentiel de ne pas tomber dans une vision polarisée du débat sur l'écologie, qui fait que des militants et militantes engagés contre la destruction du vivant sont traités d'éco-terroristes et subissent des poursuites judiciaires disproportionnées face à la violence déployée contre le vivant humain et non humain. C'est pour cela que nous avons souhaité poser la question de la violence et de la contre-violence comme fil rouge de ces 2 épisodes, en nous inspirant notamment des travaux d'Elsa Dorlin d'après son ouvrage « Se défendre, une philosophie de la violence ».
Elle dit « La possibilité même de se défendre est le privilège exclusif d'une minorité dominante. Repérer ce dispositif à ses points d'émergence, en situation coloniale, permet de questionner les processus de captation monopolistique de la violence par les États qui revendiquent l'usage légitime de la force physique. » Un peu plus loin, à propos des suffragettes Self-Defense Club créés en 1909 en Angleterre, l'autodéfense devient effectivement un art total, en raison de sa panoplie de techniques martiales, pragmatiques et efficaces, mais surtout en raison de son aptitude à créer de nouvelles pratiques de soi qui sont autant de transformations politiques, corporelles, intimes. Et plus loin, à propos des risques de la violence, plus tu te défends, plus tu souffres, plus certainement tu meurs. Dans certaines circonstances et pour certains corps, se défendre équivaut à mourir par épuisement de soi. Se battre, c'est se débattre vainement, c'est être battu. Une telle mécanique de l'action malheureuse a des implications en termes de mythologie politique. Quel peut être le destin de nos résistances? De représentation du monde comme de nos représentations de soi, que puis-je faire si tout ce que j'initie pour me sauver me conduit à ma perte?
Dans cette série, vous allez entendre alternativement les voix des artistes, des chercheurs et chercheuses, des militantes et militants dans leurs visions et leurs pratiques spécifiques.
Nous nous inscrivons dans une démarche d'écologie politique qui inclut les dimensions sociales et identitaires dans une vision écosystémique. Nous souhaitons faire un état des lieux de quelques-unes de nos puissances d'agir et ne pas aborder sous l'angle uniquement de la victimisation ces communautés en marge qui luttent, mais les considérer comme des forces en présence et des richesses de point de vue pour faire monde ensemble. Épisode 1. Les écologies féministes et trans.
Dans ce premier épisode, nous sommes partis du sujet qui est le plus proche de nous, l'écoféminisme.
Nous avons toutes les deux été socialisées en tant que femmes, cis, et nous assumons notre identité de genre. En tant que femmes, nous percevons, nous vivons la vision essentialiste qui voudrait faire destin commun de nos corps et de la nature.
Nous souhaitons aller plus loin en refusant cette vision essentialiste, en dépassant même la vision binaire des genres, pour entrer dans le trouble et naviguer dans la fluidité qui dépasse les polarités avec Lévi-Trans.
Je vois de plus en plus, et du reste à ma propre surprise, car hélas je n'ai plus 20 ans, je vois de plus en plus à une rapidité étonnante les femmes commencer à faire confiance aux femmes, parce qu'elles ne font plus du tout confiance aux hommes. Parce que ce monde est complètement foutu, depuis le temps que les hommes le mènent et qu'ils nous ont pris les deux pouvoirs de l'Antiquité, le pouvoir de la procréation et le pouvoir de la fertilité. Pour en faire quoi ? J'en reviens toujours à mon dada, c'est vrai, c'est une idée fixe. Cette destruction de l'environnement qui nous menace et cette accumulation de démographie qui fait qu'il est une sinistre farce de parler maintenant de la mission sacrée de la maternité quand nous sommes menacés de 6 milliards en l'an 2000. Moi, je suis mère, je suis grand-mère, j'ai deux petits-enfants. Et bien précisément, c'est aussi parce que je pense à eux et à leur avenir que je pense qu'ils vont vivre dans un monde invivable. Françoise Daubonne dans l'émission audiovisuelle Aujourd'hui Madame du 3 mai 1972. Autrice, militante, anti-nucléaire, féministe et anticolonialiste. C'est une pionnière. C'est la première à introduire la notion d'écoféminisme en France au début des années 70. Elle a fait du capitalisme patriarcal le dénominateur commun de l'oppression des femmes et de l'exploitation de la planète. Et elle offre de nouvelles perspectives au mouvement féministe et à la lutte écologiste depuis. C'est ce qu'elle pose de manière radicale dans « L'écoféminisme ou la mort » et c'est publié en 1974 et dans une longue série d'écrits engagés. Manon Aubel, photographe nantaise, réalisatrice indépendante, a produit le premier documentaire en 2022 sur la figure de Françoise Daubonne.
Nous l'avons interrogée sur les liens qu'elle tisse entre la pensée et la trajectoire de vie de cette pionnière et son expérience en tant que femme, mère et artiste.
Ce monde annoncé par Françoise Daubonne, j'en prends la dimension lorsque je me rends à Bure pour la première fois. Un journal m'envoie comme photographe assister au grand rassemblement antinucléaire en 2016 contre Cigéo. Projet industriel titanesque qui vise à enfouir à 500 mètres sous terre des déchets hautement radioactifs. Au retour de ce premier séjour à Bure, je rencontre l'œuvre de Françoise. C'est le début du mouvement féministe actuel. Quelques mois plus tard, je deviens mère. Pour la première fois, je ressens intimement les liens entre écologie et féminisme. Et j'ai le sentiment qu'il y a urgence à partager la pensée et l'engagement de cette femme visionnaire.
Ce documentaire est aussi, pour Manon, une manière de questionner le privilège de la disponibilité, nécessaire à la vie d'artiste, mais aussi de femme citoyenne, de militante, de parente, trop souvent exclue des vies des femmes.
J'estime que lorsqu'on écrit, on peut faire un manifeste d'insoumission et de disponibilité perpétuelle. C'est le sens même de ma littérature. Cette citation, je l'adore, et au moment du montage, j'ai vraiment insisté pour qu'elle y soit, parce que c'était peut-être pas évident de commencer. Je crois que c'est une des premières citations qu'on entend d'elle dans le film. Et c'est un moment de sa vie, c'est une jeune écrivaine, et je trouve que, waouh, ce qu'elle dépose là au tournant de cette phrase, c'est vraiment... moi, ça m'émeut énormément. Je trouve ça hyper émouvant qu'elle fasse cette déclaration d'intention autour de son projet littéraire à cette époque, si jeune écrivaine, avec ce rapport à la disponibilité, parce qu'il faut être disponible pour créer, évidemment, et que quand on est une femme, mère, en plus, ça ne va pas de soi. Et donc, ce rapport à, voilà, est-ce qu'on est disponible au monde ? Je trouve que c'est une excellente question à se poser. En général.
Mais ce rapport à la maternité pose aussi la question de l'ambiguïté du rapprochement de la domination de la nature et des femmes de manière parfois contre-productive.
Ce que je trouve aussi intéressant sur Françoise Daubonne, c'est qu'elle n'est pas du tout dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le féminin sacré. Et je ne veux pas faire d'opposition nécessaire, mais c'est juste que on reproche souvent à l'écoféministe d'être essentialiste et voilà, les femmes, évidemment, naturellement, elles sont faites pour être mères. Il y a tout plein de raccourcis comme ça qui sont employés. Françoise Daubonne, elle s'inscrit vraiment dans le courant matérialiste du féministe, c'est-à-dire celui qui s'intéresse à l'organisation de la vie. Elle va vraiment s'intéresser au destin des femmes, des mères, du point de vue des études sociologiques, démographiques. Et en cela, je trouve que c'est ça qui est assez émouvant à redécouvrir aujourd'hui, quel que soit son rapport à la terre, derrière la spiritualité, tout ça, c'est de voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire être une femme par rapport à qu'est-ce que ça produit quand on devient mère économiquement, simplement, quel effet ça a économiquement lorsqu'on devient mère, au moment de la retraite, au moment de l'entrée aussi sur le marché du travail. Il y a comme ça des points de rupture qui montrent qu'il y a un destin de genre évident qu'on mériterait de mieux connaître, je trouve. Et Françoise Daubonne, elle a fait ce travail, en fait, de mise en mots et de recherche pour rendre ça accessible, bien avant ce qu'on continue de faire aujourd'hui, en fait.
Françoise Daubonne nous a offert un contre-modèle assez troublant. Elle n'a pas vraiment élevé ses enfants, se consacrant plutôt à sa carrière et à ses engagements militants. Quand on l'interrogeait sur ce point, elle disait qu'elle s'occupait de ses enfants en bon père de famille, sous-entendant qu'elle assurait par là leur bien-être matériel, sans pour autant prendre en charge l'éducation et le soin au quotidien des enfants. Elle opère ici un renversement qu'il est intéressant d'entendre, et qui constitue pour elle un point de départ possible à partir duquel l'écoféminisme pourrait s'élaborer. Ou plutôt les écoféminismes, car il ne s'agit pas d'un concept figé. Manon Aubel nous en a donné sa définition.
L'écoféminisme, selon elle, la première fois qu'elle le théorise, c'est vraiment la tension autour de la question de l'appropriation du corps des femmes par le patriarcat et celle de la terre. Enfin, elle fait vraiment ce parallèle entre l'oppression de la planète et celle des femmes. Et c'est vrai que ça peut sembler un peu abstrait vu de nos vies modernes du 2025, mais en fait, quand on prend le temps d'aller dans ce que devenir parent veut dire et de la marge de manœuvre qu'on a en tant que femme, mère, je pense que le puzzle commence à se faire. En tout cas, moi, il s'est fait de manière très efficace à ce moment-là, même si j'ai toujours un peu de mal à dire de manière aussi brutale, bah voilà, l'écoféminisme c'est simple, il s'agit de l'appropriation du corps des femmes et de la planète. Enfin, je trouve que quand on donne la définition de manière si brutale, ça échappe en fait à trop de gens. C'est-à-dire qu'on reste dans une forme de déni. Alors que quand on repart de soi et qu'on se demande si vraiment on a la disponibilité, les ressources tout simplement pour aller s'opposer à ce qui nous fait du mal ou fait du mal aux ressources les plus proches de nous, là je trouve que ça prend sens. Si chacun, chacune individuellement on fait ce travail, tout d'un coup il y a de la marge de manœuvre possible, il y a de l'action possible. Donc c'est déjà comment on sort un peu du déni en revenant à nous et en faisant ce travail de « ah oui, en fait, c'est pas si loin, c'est pas juste un truc abstrait de le patriarcat, le capitalisme », même si c'est très concret, en fait, ça dépend des personnes. Il y a des personnes pour lesquelles le chemin est déjà fait concrètement. Mais pour moi, en tout cas, pour revenir à ce que ça représentait pour moi, c'est vraiment, au départ, c'était des notions un peu vagues. Et donc de revenir à comment ça se manifeste dans ma vie et de quelle manière c'est bloquant, c'est sortir du déni. Et enfin, je crois que le titre de votre podcast sur les tumultes, là, ça m'interpelle aussi à ce niveau-là, parce que c'est sortir du déni, c'est pas confortable. Pour moi, c'est là que vient le tumulte, parce que ça crée aussi de la résistance, de l'inertie, ça crée une sorte de... C'est pas confortable, en fait, d'aller voir à quel endroit on est empêché, en fait.
Nous avons aussi interrogé Edith et Annette, deux femmes engagées dans plusieurs combats militants. Pour elles, l'écoféminisme, c'est la convergence des luttes, c'est pluriel et mouvant.
Pour moi, l'écoféminisme, en fait, c'est vraiment intégrer que quand on lutte contre le patriarcat, il est inévitable de lutter contre le capitalisme et que contre tout ce qui produit des oppressions. C'est forcément une convergence des luttes, parce qu'on intègre toutes les vulnérabilités, donc tout ce qui fait domination. Pas uniquement la domination sexiste, en fait.
L'écoféminisme, pour moi, ce serait les écoféminismes, au pluriel, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce sujet-là, plus à titre de curiosité, d'analyse, parce que j'avais bien envie de parler de ce sujet, justement, d'un point de vue de vulgarisation, d'un point de vue de qu'est-ce que cette mouvance militante qui n'est pas ancrée dans mes collectifs, en tout cas, c'est pas ce qui prédomine. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait plein d'écoféminismes différents, plein de mouvances. Ça peut être à la fois quelque chose de plus de l'ordre de la croyance, de la spiritualité, d'une façon de vivre, donc tous ces enjeux de renouer avec son corps. Puis après, il y a les luttes écoféministes qui peuvent venir en tête aussi, des courants et des luttes militantes de terrain menées par des femmes dans le monde entier. Donc moi, je n'aurais pas de définition très personnelle à donner, mais ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'on ne puisse pas vraiment attribuer... justement, la définition à une personne, c'est pas une personne qui a inventé les écoféminismes, parce que ça vient du terrain, et puis ça vient aussi des personnes.
Sur le terrain du militantisme, de la vie publique, mais aussi dans les dimensions les plus intimes des vies des femmes, de mères, L'écoféminisme vient pointer un système d'oppression qui est difficilement acceptable pour les tenants du patriarcat. Françoise Daubonne l'a fait de manière radicale. Elle a été jugée sur cette posture contre nature, immorale. On l'a considérée comme violente. Elle-même parlait de contre-violence en réponse à ces accusations. Elle est une des premières en France à poser cette dialectique de la violence dans le concept d'écoféminisme.
Concernant l'idée de contre-violence qui a été proposée par Françoise Daubonne, personnellement, je n'ai pas envie de me positionner sur un plan éthique ou moral, de dire c'est bien, c'est pas bien. Parce que je pense que c'est un peu un écueil quand on se positionne là-dedans. On rentre dans un débat de oui, mais la limite, elle se situe où ? Violence, c'est quoi ? Est-ce que ça inclut les dégradations matérielles ? Est-ce que ça touche aux personnes ? Enfin, il y a un débat qu'on peut avoir, hein, mais qui est complexe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la violence qui est générée et la réaction que ça produit. La violence qui est quand même assez souvent occultée dans les médias, mais qui va devenir de plus en plus compliquée à occulter, parce qu'aujourd'hui, les grands dirigeants de ce monde occidental notamment sont de plus en plus explicitement virilistes dans leurs propos. Par exemple, on a un Trump qui va dire « drill, baby drill » pour faire la promotion de l'exploitation des sous-sols américains, et tout en disant « attrapez-les par la chatte » en parlant des femmes. Donc là, le lien entre cette position viriliste, agressive, violente, et ce que ça produit dans le monde, elle est de plus en plus évidente, en fait. Donc cette violence-là, elle n'est pas abstraite, en fait. Elle est vraiment quotidiennement concrète par mille petites choses et vécue différemment à mille endroits du monde. Donc, forcément, à un moment, on ne peut pas rester sans rien faire. Et quand on manifeste, quand on signe des pétitions, quand on fait du plaidoyer, comme si en face de nous, on avait des gens qui n'avaient pas bien compris la question, alors qu'en fait, ils savent très bien de quoi il s'agit, ils savent très bien quelles sont les conséquences des lois qu'ils font voter, par exemple. Et quand on fait tout ça et que rien ne se passe, et qu'au contraire, la situation empire, eh bien, ça me paraît complètement logique, pour des raisons d'efficacité, qu'il y ait un certain type de violence en réponse. Et là, je ne suis pas en train de dire que je cautionne ou que je cautionne pas, je parle juste de presque logique, factuelle. Bah oui, effectivement, c'est normal qu'à un moment donné se pose la question de la violence en réponse à une violence qui nous est imposée. Quand je dis nous, c'est les personnes qui n'ont pas le pouvoir dans ce monde. Et donc, qu'il s'agisse de sabotage, qu'il s'agisse de désarmement, des installations industrielles qui sont nuisibles, ou de diverses autres manières d'agir, finalement, c'est bien en gardant en tête que tout ça, ce n'est qu'une réaction. C'est pas, on n'a pas la valeur de la violence pour la violence. Ça, c'est le fascisme, en fait. Et pour le coup, les militantes et militants qui sont plutôt dans la mouvance de l'écoféminisme, il y a une défense du vivant qui nécessite de bouger dans cette direction parfois. C'est là qu'on voit qu'il y a une bataille culturelle qui est vraiment en marche. Et moi, j'adore l'idée qu'on invente le mot de désarmer, en parlant d'installation industrielle, face à des mots complètement démesurés comme éco-terroriste. Parce qu'effectivement, une partie de la population va finir par y croire et une autre va finir par ne pas y croire. C'est complètement démesuré de comparer des gens qui se mobilisent avec virulence contre quelque chose qui détruit le vivant, alors que terroriste, c'est au contraire semer la terreur et tuer sans distinction. Moi, j'ai espoir que dans cette bataille culturelle, au fur et à mesure, ça devienne tellement gros en face que ça tienne plus, en fait.
Oui, barbare je suis, oui, j'aime le canon, la mitraille dans l'air, ami, ami, dansons, la danse des bons, regarde à mon, voici les lions, le tonnerre de la bataille, gronde sur nous, amis, chantons.
Qu'est-ce que la violence et la contre-violence et le sabotage qui devient l'éco-terrorisme ? Bon, bah récemment, j'ai lu Salomé Saké qui parle de l'extrême droite et de la manière dont il détourne en permanence les mots. Enfin, ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant à lire sur comment c'est encore à l'œuvre et comment ça contamine le discours médiatique aussi. Donc vraiment être assez vigilant par rapport à ça. Je pense que ce que je racontais tout à l'heure autour de revenir à sa sincérité, ne pas se taire, c'est déjà perçu comme de la violence dans un système qui éduque à l'obéissance des femmes et qui détourne le sens même des mots, puisqu'en fait, quand on parle et qu'on dénonce quelque chose, on est accusé d'être violente ou d'être hystérique ou d'être toutes ces choses. Donc voilà, c'est très important de bien poser ce contexte avant de parler de qu'est-ce qui est violent ou qu'est-ce qui ne l'est pas.
Par rapport à Françoise Daubonne, elle va très loin dans la contre-violence dans la mesure où elle participe au sabotage d'une centrale nucléaire en 1974. Ça m'a vraiment intriguée de me dire, mais comment c'est possible d'aller jusque-là? Comment ça s'est passé? Je me suis un peu transformée en enquêtrice. Mais en tout cas, ce qui est drôle, ce qui est raconté dans le film, en tout cas, c'est le fait qu'elle a dû cacher cet acte de sabotage tout en parlant régulièrement. En fait, elle était même dans son album de photos familiales, donc on se rend compte qu'elle avait super envie que ça se sache, mais que bon, ça était quand même hors la loi et elle risquait une peine de prison importante. Et ça reste, de manière générale, l'activisme écologiste reste sous haute surveillance. Après, qu'est-ce qui est violent, qu'est-ce qui ne l'est pas? Je pense que tout est dit dans le film, dans la mesure où j'accompagne un petit peu la parole, notamment de David Dufresne, sur la question de bien recontextualiser la différence entre les années 70 et l'époque d'aujourd'hui. Le fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus surveillé, qu'il y a une forme d'omerta que moi, je tente de restituer très brièvement en fin de film pour montrer à quel point, voilà, quand on est face à des drones, des camions de CRS et que... on parle d'une poignée de militants, militantes. Il y a déjà une disproportion de moyens qui, pour moi, la violence est clairement d'un côté. Et après, comment moi je me situe sur jusqu'où aller. Moi, en tant qu'artiste, je ne sais pas encore en fait où me mèneront mes recherches, mes envies. Mais en tout cas, je trouve que c'est important, pour revenir à, un peu au cheminement du film et le mien, déjà de travailler à partir de cette conscience collective de où on en est aujourd'hui par rapport à la destruction de l'environnement massive, au deuil qu'on doit faire de nos territoires d'origine, des personnes autour de nous, toute cette oppression systémique, de bien la regarder en face. C'est aussi ce que raconte Starhawk dans Révé l'Obscur, hein, c'est vraiment de regarder en face toute la noirceur qu'on met à distance et de l'échelle de nos vies humaines qu'on perd de vue en fait dans le déni dans lequel on est autour de... Voilà, on vit de plus en plus longtemps, on veut devenir des transhumanistes, on a quelques années de vie active et saine dans lesquelles on peut s'engager, puis après on devient vieux et on espère qu'on va s'occuper de nous, mais voilà, il faut revenir à cette humilité aussi de... On n'est que de passage, en fait. Je trouve que l'écoféminisme accompagne aussi ce redimensionnement de nos vies. Et donc... Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui d'agir de la manière la plus juste? C'est déjà de cultiver cet état de conscience, de mettre en mots, d'avoir des espaces d'écoute et d'attention dans lesquels on peut faire mieux collectivement, encore une fois. Et donc peut-être que la création, la littérature donne des pistes, peut aider, accompagner, structurer ce processus. Mais voilà, je dirais qu'on a besoin de ça aujourd'hui. C'est peut-être ce que l'écoféminisme... permet de nommer, mais voilà, il n'y a pas besoin de l'étiquette non plus. Et puis après, sur la contre-violence, ça appartient à chacun, chacune d'aller jusqu'où il ou elle ressent le besoin d'aller. Mais c'est vrai que c'est une lutte pour la vie, en fait. C'est aussi cette dimension-là de l'œuvre de Daubonne qui m'a interpellée. Le premier ouvrage sur lequel je suis tombée, c'est Le féminisme ou la mort. Mais rien que le titre même de l'ouvrage, c'est un appel à la survie de l'espèce. Donc moi, ça m'a vraiment habité, en fait, cette dimension-là.
Pour remettre en question la vision essentialiste et binaire du vivant et adopter une perspective pleinement intersectionnelle, nous nous sommes tournés vers un nouveau champ d'études émergent, les éco-transféminismes.
Ce mot composé est une invitation à trouver les coins par lesquels les vies éco, trans et féministes se rejoignent, comme l'écrivent Emma Biget et Clovis Maillet dans leur livre « Éco-transféminisme ».
Je m'appelle Clovis Maillet, je suis historien, je travaille sur les questions de genre au Moyen-Âge. J'ai écrit un livre sur la sainteté trans au Moyen-Âge et j'ai aussi coécrit un autre ouvrage sur la manière dont l'imaginaire médiéval peut apporter des clés émancipatrices pour les sociétés contemporaines. Je suis aussi artiste et je travaille dans le champ plutôt de la performance.
Je m'appelle Emma Biget, je suis philosophe et traductrice. Je travaille avec les études en danse, les études transféministes et les études environnementales. Et j'ai notamment écrit un bouquin il y a 2 ans qui s'appelle « Mouvementement écopolitique de la danse » qui est paru à La Découverte et dont on a déjà parlé à La Turbine il y a quelques années de ça.
Écologie, trans, féminisme, ces mots sont porteurs d'une histoire brutale, comme l'expliquait Mabigé.
L'écologie, c'est un concept qui vient du 19e siècle, d'une science de l'interdépendance entre les vivants, mais qui désigne aussi, dans le travail de son premier auteur, une vision clanique, une vision territoriale de ce que c'est que l'interdépendance, c'est-à-dire que certains vivants sont adaptés à la collaboration avec certains autres, et puis il y en a d'autres, il ne faudrait surtout pas qu'ils viennent. Donc il y a une version racialisante de ce concept qui s'est compliqué à travers les luttes environnementales au XXe siècle, a commencé à refuser cette vision racialisante pour envisager une écologie collective, globale, qui lutte contre non seulement la destruction des écosystèmes, mais aussi le patriarcat, le capitalisme, qui sont tissés avec la destruction de ces écosystèmes. Parfois, écoféminisme désigne cela, cette intersection entre les luttes écologiques et les luttes contre le sexisme. Donc féminisme, voilà, c'est le deuxième mot qui compose notre histoire. C'est un mot qui est déjà, au début, une insulte qui est jetée aux hommes qui sont les partisans des citoyennes, celles qui luttent pour le droit de vote des femmes en France. Donc c'est une insulte qui leur est jetée, qui est revendiquée par les féministes elles-mêmes. En un sens, c'est une sorte d'épidémie transgenre, hein, les hommes se féminisant en faveur de la lutte des femmes, et un concept dont on peut se réclamer si on l'imagine comme ça, comme une espèce de tache d'huile, un outil à coalition. Et du coup, c'est cette coalition qu'on désigne par éco-transféminisme en y apposant le préfixe trans, qui, au moins depuis le XIIe siècle, peut s'accoler à génus, à genre, pour dire les transitions qui vont d'un genre à un autre ou d'un genre à rien, et qui en est venu, surtout au cours du XXe siècle, à s'articuler aux discours biomédicaux pour désigner une condition sociale, citoyenne, de rapport aussi à la médecine et à la chirurgie, sous le terme de transsexuel. Et nous, on utilise le terme trans avec une astérisque, qui est une petite signe diacritique qui signale un peu une aspiration à s'accoler à quantité d'autres termes comme écologie, comme sexuel, comme genre.
Emma Biget et Clovis Maillet ont eu la volonté de rassembler des pratiques et des études de ce mouvement. La perspective éco-transféministe permet aussi de dépasser l'opposition binaire entre nature et contre-nature, qui est souvent utilisée comme justification d'attaques transphobes ou contre les personnes queer accusées d'être contre nature.
Notre idée avec ce livre,
Clovis Maillet,
c'était d'essayer de rassembler et d'attirer un peu comme un aimant tout un tas de choses qui se passent dans une famille de pensée qui est celle donc des éco-transféminismes. Donc forcément, ce dont on parle, c'est un agrégat en fait de pensées qui vont dans un certain nombre de directions, mais qui existe comme une sorte de marée, on espère, pour lutter contre cette idée fasciste qu'il y aurait effectivement d'un côté les défenseurs de la nature et de l'autre les minorités de genre et minorités sexuelles qui seraient des sortes de fous de la technologie ou folles de la technologie ultra-urbaines et complètement déconnectées de l'environnement, qui est une sorte de stéréotype qui est souvent remis sur le tapis, notamment dans les débats sur l'accès libre aux traitements médicaux, à l'hormonothérapie, mais aussi un petit peu plus généralement, en fait, sur l'idée que peut-être, quelle est la place, effectivement, de tout ce mouvement-là, de toutes ces personnes qui ont chacun de leurs différences dans la lutte environnementale. Et donc, nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est que quand on se place dans le système nature contre nature, on se place d'emblée dans un système qui est celui de l'exclusion des minorités de genre et sexuelles. Pourquoi ? Parce que le terme de contre-nature, il a une histoire. C'est l'histoire de l'idée qu'on pourrait condamner pénalement des gens en raison de leurs préférences sexuelles. Et donc, cette idée-là, elle est vraiment marquée par l'espèce de création de ce crime contre-nature. Et donc, le crime contre-nature, c'est le fait d'avoir une sexualité non reproductive. Ça s'est inventé par des théologiens au XIe siècle. Et ça n'a pas marché tout de suite. Les gens n'ont pas été convaincus tout de suite parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens à convaincre de cette histoire-là. Mais ça a fini effectivement par créer cette juridiction spécifique dans les tribunaux d'inquisition pour le péché de sodomie. Donc, à travers cette opposition, ce serait nature ou contre-nature, culture, d'emblée, en fait, même si les choses ont beaucoup évolué, on voulait pointer du doigt le fait qu'on s'inscrit déjà dans une idée de qu'est-ce qui serait une sexualité qui serait naturelle et de jusqu'à quel degré de peine est-ce qu'on va infliger aux gens qui ne correspondraient pas à cette idée-là. Donc, c'est un petit peu ça qu'on voulait complètement démonter, en essayant de montrer en fait la diversité, au contraire, des alliances qui se font entre le mouvement de lutte pour la justice climatique, pour les alliances avec les autres espèces, et surtout les espèces pas qu'humaines, végétales, animaux, au-delà de l'humain, et que ça fait très très longtemps qu'on a commencé à travailler ensemble, à lutter ensemble avec les poules, avec les escargots, avec les animaux d'élevage qui vont à l'abattage, les plantes qui sont taillées ou sélectionnées pour devenir des produits de consommation, et qu'en fait l'alliance, elle est là et elle existe et elle est peut-être au premier plan d'un certain nombre de ces luttes pour essayer de créer un monde qui soit habitable ou de résister en tout cas à l'inhabitabilité de notre monde.
Le concept d'éco-transféminisme est particulièrement intéressant et pertinent parce qu'il remet en question la vision essentialiste et binaire du vivant et nous fait comprendre qu'au sein du vivant humain et non humain, ce qui est robuste, c'est ce qui est hybride et pluriel. Une perspective qui a été étudiée par Olivier Hamant.
Que trouve-t-on dans les réseaux des écosystèmes, les réseaux de neurones ou les réseaux génétiques ? De façon massive et prévalente, de l'hétérogénéité, des processus aléatoires, des lenteurs, des délais, des redondances, des incohérences, des erreurs et de l'inachèvement. Le vivant héberge surtout une myriade de contre-performances à toutes les échelles, de la molécule à l'écosystème. Pensez à la photosynthèse qui permet de convertir le CO2 en fibres de carbone pour construire les plantes et nourrir la quasi-totalité des écosystèmes terrestres. Ce processus qui est apparu il y a 3,8 milliards d'années affiche un rendement en général inférieur à 1%. Dit autrement, les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. On est bien loin des panneaux solaires et de leur rendement autour de 15%. Aucune trace d'optimisation en 3,8 milliards d'années, voilà qui devrait nous interroger. Olivier Hamant, Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant, édition Tract Gallimard 2023.
Dans les 30 dernières années, cette perspective est présente aussi au sein de la biologie. Emma Biéger nous parle de la biologie critique ou de la contre-biologie, des études attentives aux vies queer et trans à l'intérieur des vivants non humains.
Parce que ce qu'on sait assez bien, c'est que les biologies patriarcales, les biologies empruntent des modes de pensée capitalistes, en un certain sens le cas de Darwin, qui pense, qui immobilise beaucoup la logique de la compétition, et en tout cas il y a eu beaucoup d'interprétations qui ont été faites de ses travaux à partir de cet usage de la métaphore de la compétition. On sait très bien que ces biologies, elles sont orientées vers une certaine idée de la sélection naturelle comme répondant à des impératifs égoïstes de survie de l'individu plutôt que du collectif. Et donc on s'est intéressé à comment ces biologies queer, féministes, non seulement disent « oui, il y a des vies queer, il y a des mouettes gouines, il y a des pingouins pédés, il y a des petits poissons qui font des transitions de genre ». Bon, tout ça, je ne sais pas si ça prouve grand-chose pour les êtres humains, parce qu'après tout, nous ne sommes pas des petits poissons. Mais par contre, ce que ça nous donne, c'est aussi une vision de qu'est-ce que ça pourrait être que la sélection naturelle, qu'est-ce que ça pourrait être la vie des vivants entre eux. Et ce que tendent à montrer ces biologies attentives aux vies queer et trans chez les autres animaux, c'est qu'un autre moteur de l'évolution que celui de la compétition prévaut pour notamment rendre compte de ces transitions ou ces vies polyamoureuses. Si on prend l'exemple peut-être le plus fameux, qui est celui des petits poissons clowns ont fait l'objet d'une des narrations les plus célèbres des 10 dernières années, qui est Le Monde de Nemo. Les petits poissons clowns, dans la vraie vie, si je puis dire, la plupart du temps, quand la maman meurt, le papa transitionne et devient une femelle. Donc on a, voilà, là un cas clair de présence de transition de sexe à l'intérieur de certains vivants, ces petits poissons coralliens. Et à quoi leur sert ces transitions de sexe? Alors on pourrait dire bah, parce que ça leur plaît, c'est peut-être un peu le cas. En tout cas, elle est au service de veiller sur les rejetons. Hein, puisque les femelles poissons-clowns sont plus grosses, ce qui a certains avantages, notamment reproductifs, mais aussi de veiller sur le collectif. Et donc il y a tout un tas de biologies queer et transféministes qui vont affirmer cela. Un autre moteur de l'évolution existe, qui est la coopération, le soin pris aux générations, et non pas le maintien de l'individualité reproductive.
Si on quitte le champ des études scientifiques, selon ces militantes écologistes que nous avons interrogées, faire converger les luttes au sein des mouvements écologistes est nécessaire.
Concernant la lutte pour les droits des personnes trans, en fait, pour moi, ça s'inscrit effectivement dans le paysage du féminisme intersectionnel. C'est-à-dire que là, il ne s'agirait pas de décréter qu'une quelconque nature aurait le pouvoir de classifier les gens, en fait. C'est-à-dire que je pense que les gens qui s'opposent à cette lutte-là ont besoin absolument d'utiliser des arguments qui leur paraissent scientifiques pour essayer de mettre les gens dans des cases, et ça fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que si on écoute pas mal de scientifiques sur ces questions-là, c'est assez drôle de voir à quel point le vivant est divers. Ensuite, si on se place sur un point de vue un peu plus politique, il s'agit d'accueillir toutes les vulnérabilités, toutes les situations où les gens peuvent être victimes d'oppression, et de s'associer pour lutter ensemble. Parce qu'en réalité, ce qu'on a en face de nous, ce qui nous opprime, c'est la même chose. C'est toujours un système patriarcal et capitaliste qui veut dominer. Alors, d'ailleurs, classé dans des cases, ça fait partie de dominer. Hein. C'est toujours un fantasme d'avoir le pouvoir sur quelque chose. Mais on a en face de nous quelque chose qui souhaite étouffer cette diversité du vivant. Donc si on travaille ensemble, eh bien, je pense qu'on a plus de chances d'arriver à mener cette lutte-là.
Cette approche intersectionnelle est nécessaire au vu de la montée des écofascismes, comme l'explique Annette.
Il y a quand même un enjeu qu'on prend de plus en plus à cœur, pas tant au sein de notre mouvement, mais dont on est très très attentif et attentive collectivement en ce moment. C'est l'augmentation des mouvances, alors notamment écofascistes, mais c'est très large. Comme idéologie, l'écofascisme, les écofascismes d'ailleurs, mais les mouvances qu'on essaye de surveiller au maximum, qui viennent phagocyter pas mal de collectifs de plus en plus en France, c'est les mouvements qui se revendiquent anti-civilisationnels, anti-technologiques, qui critiquent en fait la façon dont la civilisation thermo-industrielle, en gros, est à l'origine du drame climatique actuel, écocidaire. Et il y a une partie de leur revendication et de leur constat qui est vrai, qui est scientifique. Par contre, les objectifs visés et les manières de faire et les moyens déployés sont vraiment, vraiment à des années-lumière de ce que nous, on a envie de faire au sein des collectifs dans lesquels j'évolue. Ce sont des revendications du type un peu loi de la jungle, c'est-à-dire que pour ce type de mouvance, si il n'y a qu'un certain type de catégorie d'humains qui peut survivre dans des conditions extrêmes, et ben ce sera eux qui seront sélectionnés, quoi. Donc en fait, on annule tout type de technologie, les médicaments, les soins, l'accompagnement, tout ça on oublie, donc c'est des visions ultra validistes, puisque en fait, si t'es pas en capacité physique ou que t'es dépendante de médicaments ou autre, et ben tant pis pour toi, parce qu'en fait, soi-disant, les limites planétaires sont une justification à ce qu'on ne puisse plus t'accompagner et te fournir ce dont tu as besoin juste pour survivre, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, toutes ces mouvances qui sont très problématiques, qui ont tendance à monter dans certains mouvements écologiques. Alors pourquoi? Pour plein de raisons de polarisation en ce moment, je pense, de la géopolitique, l'augmentation du fascisme, en fait, de manière générale, dans le monde, font que je pense, avec cette notion de fenêtre d'Overton, de ce qui est plus ou moins envisageable, acceptable, entendable, de se dire, bah, effectivement, la crise climatique, elle augmente, elle est de plus en plus violente et visible, hein, je veux dire, on voit les inondations à Paris très récemment. Voilà, il y a une peur qui augmente et je pense que c'est ça qui rend acceptable les écofascismes.
Abandonner ce culte individualiste de la performance, selon Olivier Amand, n'est pas vraiment négociable dans un monde fluctuant comme le nôtre. Nous n'aurons pas le choix et c'est une excellente nouvelle. Donner le primat à la robustesse, construite contre la performance par essence, permet non seulement d'habiter le monde fluctuant qui vit, mais garantit aussi aux projets de développement durable, de sobriété ou de décroissance de ne pas tomber dans le piège du solutionnisme performant. Pour ne pas tomber dans ce piège du solutionnisme, il faudra donner un nouveau sens à ce terme de transition écologique, comme le dit Emma Biget.
Moi, je suis très sincèrement touché qu'on parle avec autant de facilité de transition écologique. Et évidemment, en tant que personne trans, moi, je ne peux pas m'empêcher d'entendre quand on dit transition écologique, ah oui, ben, donc voilà bien quelque chose qu'on va devoir vivre dans nos chairs. Et non pas quelque chose qu'on peut faire advenir au dehors. Et on voit bien que la capture du concept de transition écologique par la Macronie, par exemple, sous la forme du ministère de la transition écologique, elle a pour vocation à raconter une transition qui ne concerne certainement pas un grand nombre de gens, les plus riches, qui eux vont pouvoir maintenir leur stabilité, hein, ce que nous on propose avec écotransféminisme, et ce que les écotransféminismes portent en général, je crois, c'est l'idée qu'on ne peut pas faire des transitions, écologiques ou pas, en ressortant indemne.
Habiter son corps en dehors des normes de genre, est-ce une piste pour habiter la Terre de manière plus écologique ? Clovis Maillet répond.
Est-ce qu'il y a un rapport entre habiter dans son corps et habiter dans son environnement ? La seule petite information, il me semble, que pourrait nous apporter l'expérience trans, mais je fais une hypothèse ici, c'est le fait que quand on habite dans un corps trans, on sait souvent assez tôt ou au fil de la vie qu'on n'arrivera pas à se contenter d'un certain nombre de scripts préétablis et très simples pour nous expliquer comment est-ce qu'on va habiter. Et donc, ça apporte au moins ça, le fait de devoir se questionner, faire des recherches, pouvoir essayer d'imaginer et d'inventer, d'échanger avec les autres pour savoir, alors, toi, tu l'habites comment, ton corps ? Et plutôt que de se dire, mon idéal, c'est d'avoir un corps comme ça. Et donc, je me dis que ça peut servir quand même un petit peu de modèle, plutôt que de se dire, ce que je voudrais, c'est d'avoir une super grosse maison avec une voiture SUV. Au moins, on pourrait se dire, alors, je ne sais pas où est-ce que je voudrais habiter et avec qui, mais qu'est-ce que t'en penses, toi ? T'as combien de poules qui habitent dans ta maison ? Et vous êtes combien à vous ? Vous êtes mis à combien pour élever des enfants ? Parce que c'est vraiment pas facile d'élever des enfants. Et au moins de se poser les questions à chaque moment pour pouvoir savoir la maison qui soit la moins polluante, on ne l'a pas trouvée pour le moment. Mais continuer à se poser la question de comment est-ce qu'on va arriver à le faire, ça me semble déjà une piste de réflexion.
En italien, le mot lutte, lotta, est étonnamment similaire au mot deuil, lutto. En portugais, le rapprochement est encore plus évident. Luta et luto. À l'heure des écocides et des crimes climatiques, nous serons tous confrontés à l'accélération des extinctions et des décès du vivant humain et non humain qui nous entoure.
Les luttes trans se fondent sur le souvenir des victimes de la violence transphobe. Une pratique qu'on retrouve aussi dans les collectifs féministes via, par exemple, le mur des fémages du collectif Nous Tous, qui dénombre tous les ans les noms des victimes des féminicides. Comment survivre ? Comment lutter au milieu des deuils ?
Les luttes trans ont cette particularité de s'être d'abord organisées en tant que militantisme autour de l'organisation de ce souvenir des victimes des violences. Et donc l'idée, c'est que ça, c'est un outil, cette manière de traverser les deuils, que c'est une pratique effectivement qu'on voudrait voir se diffuser, sur laquelle plutôt on peut s'appuyer parce qu'elle a déjà en fait une longue histoire militante pour pouvoir traverser les catastrophes dont on sait qu'on est déjà en train de les vivre.
Ce que nous apportent les écotransféminismes, c'est une vision et une pratique incarnée de l'écologie, qui se manifeste à travers une solidarité entre les vies trans, mais aussi envers le vivant non humain.
Le livre en fait se finit sur la notion de commun trans, commun compris au sens où l'écologie s'efforce de le penser, c'est-à-dire cet ensemble de caractéristiques de l'environnement qui n'existe que parce que nous en prenons soin ensemble. Alors souvent, quand on parle de commun, on pense à une rivière ou une forêt. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire pour les communautés trans que d'avoir des communs ? C'est beaucoup moins évident de le déterminer, notamment parce que les communautés trans sont souvent éclatées. Il n'y a pas un pays où il n'y a que des trans. Mais par contre, il y a des poches, des vies qui centralisent un peu partout dans le monde, qui se rapprochent dans des formes de soins qu'on peut appeler T4T, trans pour trans, et qui donc inventent des solidarités parce qu'il n'est pas toujours si facile de trouver de l'aide ailleurs que dans la Delphité trans. Et ça nous donne des pistes sur c'est quoi les techniques de faire commun, de prendre soin du commun les unes avec les autres quand on traverse une vie trans. Et à nouveau, une des choses auxquelles on arrive, c'est apparemment, ce que les personnes trans font les unes pour les autres, c'est prendre soin des transitions des unes des autres, rendre nos transitions les unes des autres possibles. Ça veut dire des choses matérielles, s'expliquer des trucs, etc. Mais ça veut aussi dire être là quand le sol s'ouvre sous tes pieds. Toutes ces choses-là qui, à mon avis, sont des prérequis de l'habitabilité dont on est en train de parler là, à savoir un sens de la solidarité, y compris dans les endroits où on se fait du mal les unes aux autres, y compris dans les endroits où on est désorienté. Et je crois que ça répond une partie de ce qui attend tout le monde, à savoir le sol va bien s'ouvrir sous nos pieds.
Cela fait longtemps que les vies trans regorgent de manières de vivre au bord du monde organisé, par et pour la fixité de la binarité sexuelle. Et nous sommes tous tenus, eux, quels que soient nos genres, dans l'histoire des gestes qui ont malgré tout rendu les vies trans possibles. Car en prenant soin des vies toxiques, en inventant d'autres parentés, en veillant sur les mortes, en changeant les manières de faire et de penser le sexe, en apprenant à aimer les transitions, les communs trans s'efforcent de créer des mondes habitables, non seulement pour les personnes trans, mais pour tous. Ce n'est pas sans ambiguïté, et les communs trans, comme tous les communs du monde d'ailleurs, font l'objet d'une prédation incessante. Mais tel est le travail des transitions qui consiste à constamment chercher à défaire le retour de l'identifiable, du nommable, du prévisible. Tel est le travail transcommun qui donne quotidiennement épaisseur à ce qui se trame dans les sous-sols du monde binarisé.
Ce qui se trame dans les sous-sols du monde binarisé, c'est aussi la décolonialisation de l'écologie. Décoloniser la pensée écologique, c'est analyser les dominations racistes et classistes à l'œuvre dans le pillage du vivant humain et non humain de la part de l'Occident.
C'est l'objet du prochain épisode de Viennent les tumultes, où l'on a essayé de mettre en lumière une pluralité de voix et de pratiques décoloniales de l'écologie, depuis les territoires colonisés et les quartiers populaires. C'était « Viennent les tumultes » pour une écologie politique intersectionnelle. Épisode 1 « Les écologies féministes et trans ». À retrouver sur le blog de laturbine.org, sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur les ondes de la radio nantaise Jet FM 91.2.